Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Une attaque a fait 4 morts, dont 2 civils à Djerba en Tunisie. Un gendarme a tiré sur 2 personnes qui participaient au pèlerinage juif de l'Agriba. Il a aussi tué 2 de ses collègues. Après cette attaque, Paris, selon les mots du Quai d'Orsay, condamne avec la plus grande fermeté cet acte odieux. La France salue l'intervention rapide des forces de sécurité tunisiennes. 2 Palestiniens tués dans un raid israélien, c'est arrivé dans le nord de la Cisjordanie occupée. La journée des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition, elle a lieu chaque 10 mai depuis 2006. Nous y reviendrons avec le coprésident du MRAP, Jean-François Quentin. Comment prendre en charge les enfants présentant des troubles des apprentissages? Regarde votre édition sur le réseau des écoles Sérène, fondée par Hervé Glazel. Une école ouvrira ses portes à la rentrée à Marseille. Hervé Glazel sera l'un de nos invités. 4 personnes ont été tuées dans une attaque perpétrée par un gendarme à Djerba, en Tunisie. 2 personnes qui participaient à un pèlerinage juif dans la synagogue de l'Agriba sont mortes. Un Tunisien âgé de 30 ans et un Français âgé de 42 ans, ainsi que 2 gendarmes tunisiens. Il y a aussi 5 blessés. L'assaillant a été abattu. L'ambassade de France à Tunis a annoncé avoir ouvert une cellule de crise. Paris, selon les mots du Quai d'Orsay, condamne avec la plus grande fermeté cet acte odieux. La France salue l'intervention rapide des forces de sécurité tunisienne et dit se tenir aux côtés de la Tunisie pour poursuivre la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de fanatisme. Cette synagogue, la plus ancienne d'Afrique, avait déjà été visée en 2002 par un attentat suicide au camion piégé qui avait fait 21 morts. 2 jeunes Palestiniens ont été tués ce mercredi par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée. Un adolescent de 17 ans a également été blessé par balle à l'abdomen et à la poitrine. C'est arrivé dans une localité proche de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie. Au lendemain, 2 frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Des frappes qui ont fait 15 morts, dont des combattants et 4 enfants. C'est ce mercredi 10 mai, la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. C'est aussi une journée de réflexion civique sur le respect de la dignité humaine et la notion de crime contre l'humanité, notamment au sein de l'éducation nationale. Des cérémonies sont organisées par les préfets en lien avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Gros plan sur l'importance de cette journée de commémoration avec le coprésident du MRAP, Jean-François Quentin.
L'esclavage a été une des monstruosités de l'humanité et la France est particulièrement concernée pour ce qui est de ce qu'on a appelé le commerce triangulaire, la déportation de 11 ou 12 millions d'Africains, pas seuls évidemment avec d'autres pays, mais globalement c'est une douzaine de millions d'Africains qui ont été déportés vers les Amériques et maintenus en esclavage pendant plusieurs siècles. C'est une des monstruosités qu'on ne doit pas oublier.
Vous soulignez que le racisme était intimement lié à l'esclavage.
Totalement. L'argumentation principale, la justification, la tentative de justification de cette soumission d'êtres humains passait par le fait de considérer qu'ils n'étaient pas justement des êtres humains, ou en tout cas une catégorie d'êtres humains inférieurs, ce qui permettait de justifier leur soumission et leur exploitation sans réserve. Sans le racisme, ça serait difficile de justifier cette déportation d'êtres humains.
Vous souhaitez que ce passé soit davantage enseigné aujourd'hui ?
Heureusement, maintenant, il l'est. Mais il faut en effet sans arrêt en parler parce que, d'une part, le racisme, la tentation de considérer qu'une partie de l'humanité n'est pas équivalente à une autre, et d'autre part, l'esclavage sous des formes modernes sont des phénomènes qui continuent. Donc effectivement, il faut en parler, il faut continuer à stigmatiser ce phénomène, à le dénoncer, parce qu'il n'est pas complètement disparu, même s'il l'est légalement.
Ce 10 mai, vous le dites, c'est aussi une occasion de parler de l'esclavage moderne.
Voilà, justement, il y a toujours, d'après l'ONU, plusieurs dizaines de millions d'hommes qui vivent dans une situation qui sans être juridiquement l'esclavage, y ressemble beaucoup. C'est-à-dire la dépendance totale d'une personne qui n'a plus de vie autonome et de travail rémunéré, mais de travail forcé. Donc effectivement, ça existe toujours.
Comment aviez-vous accueilli cette loi du 21 mai 2001 ? La France reconnaissait comme crime contre l'humanité les traites et l'esclavage pratiqués à partir du 15e siècle sur les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes.
On a soutenu cette loi comme on soutient toutes les lois qui instituent une mémoire. On pense qu'il y a des choses qui méritent d'être d'une part reconnues par l'État en tant que tel, reconnues comme crime, et donc faire l'objet à la fois d'une dénonciation et d'un rappel, d'une éducation, comme vous l'évoquiez tout à l'heure.
L'abolition de l'esclavage, quand la France a-t-elle commencé à l'abolir ?
C'est une histoire un peu longue et compliquée. Ça ne s'est pas fait en une fois. Il y a eu une première abolition en 1794, pendant la Révolution française. Il y a eu un retour en arrière et un rétablissement par Bonaparte en 1802. Et enfin, l'abolition définitive en 1848 par le gouvernement issu de la révolution de 1848. Un processus compliqué avec des retours en arrière, comme souvent en histoire.
Cela a été fait sous la pression des révoltes et d'un mouvement abolitionniste qui s'est généralisé en Europe.
C'est vrai qu'au cours du 19e siècle, toutes les puissances esclavagistes ont renoncé à l'esclavage. Alors, les facteurs ont été multiples. D'une part, effectivement, il y a eu de façon permanente des révoltes qui rendaient cette exploitation à la fois de plus en plus brutale et de plus en plus difficile. Et puis, il y a eu aussi un courant d'idées qui était né au XVIIIe siècle avec la philosophie des Lumières et qui progressait dans le sens de reconnaître l'humanité dans son ensemble et qui a fait progresser des idées qui ne rendaient plus tolérable l'idée d'esclavage.
Vous ressentez quoi, Jean-François Cantin, coprésident du MRAP, en ce 10 mai, en ce jour de commémoration ?
Ben, à la fois, il y a toujours un sentiment d'horreur à penser à ce qu'ont vécu des millions et des millions d'hommes dans des conditions abominables. Ça, c'est quand même toujours, on n'arrive pas à vraiment l'imaginer, l'admettre. Et puis en même temps, ce que je disais, c'est-à-dire que en se battant, eh bien, on obtient quand même des progrès dans l'histoire. Et c'est aussi un encouragement à penser qu'on pourra encore annihiler les restes de racisme et d'esclavage qui, comme on le disait tout à l'heure, perdurent.
Le coprésident du mouvement pour le rassemblement et l'amitié entre les peuples, Jean-François Cantin. De fortes explosions ont eu lieu au Soudan, dans la capitale Khartoum. Des déflagrations au 26e jour des affrontements entre militaires et paramilitaires. Aucun couloir humanitaire n'a jusqu'ici été approuvé par les négociateurs des deux camps. Depuis le 15 avril, le conflit a fait plus de 750 morts et 5000 blessés. L'ONU indique que près de 150 000 réfugiés ont fui vers les pays voisins, tandis que le nombre de déplacés à l'intérieur du Soudan dépasse désormais les 700 000 personnes. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, est reconnu coupable d'agression sexuelle. Les faits remontent à 1996. La victime est une ancienne journaliste à qui Donald Trump devra verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une résolution demandant d'inscrire le groupe paramilitaire russe Wagner sur la liste de l'Union européenne des organisations terroristes. Ce groupe est accusé d'exactions en Ukraine et sur le continent africain. Comment prendre en charge les enfants qui présentent des troubles de l'apprentissage? Certains parents ont choisi de confier leurs enfants à des écoles dédiées, comme le réseau des écoles Sérène, fondé par Hervé Glazel. Une école ouvrira ses portes à la rentrée prochaine à Marseille. Une réunion d'information l'information est organisée ce 11 mai. Hervé Glazel.
Vous avez en fait la famille des troubles du langage oral, des dysphasies, la famille des troubles du langage écrit, les dyslexies, dysorthographies, vous avez les troubles du geste, les dyspraxies, dysgraphies, vous avez des troubles du sens du nombre, les dyscalculies, vous avez les troubles de l'attention et des fonctions exécutives, et vous avez éventuellement les troubles du spectre autistique avec les troubles de la cognition sociale. Voilà, ce sont tous les troubles du neurodéveloppement hein, qui sont une nébuleuse en fait de troubles spécifiques, souvent co-occurrents. Il est rare qu'un enfant présente un trouble très tout à fait isolé, ça arrive, mais la plupart du temps, c'est co-occurrence qui complique un peu plus, si vous voulez, la logique de la prise en charge de ces enfants. Pour la question des troubles 10, c'est une question très importante, puisque 8 à 10% des enfants sont touchés. Ça veut dire qu'il peut y avoir entre 1 et 3 enfants par classe qui vont présenter des troubles des apprentissages, typiquement des troubles de la lecture, comme la dyslexie ou la dysorthographie, ou des troubles de l'écriture, des troubles du graphisme. Donc, si vous voulez, c'est une question de santé publique, et c'est une question pédagogique vaste, puisque ça va toucher un nombre important d'enfants, et que tout enseignant sera exposé à ses besoins pédagogiques particuliers. Donc il est important d'y réfléchir, de faire progresser les pratiques, d'accueillir ces enfants dans les meilleures conditions et de leur donner les moyens de leur réussite. Parce que ce sont des enfants intelligents, des enfants pertinents, qui ont tout à fait les moyens de développer leur plein potentiel, si tant est qu'on leur donne les outils de leur indépendance en classe. Donc les outils, en fait, sont multiples. Il y a des outils, si vous voulez dire, méthodologiques. On suit, en fait, dans les écoles que j'anime, qui sont les écoles sereines, nous avons des outils méthodologiques, hein, des approches qui permettent aux enfants de mieux organiser leurs pensées, de suivre, en fait, le parcours de la leçon de manière plus efficace. Nous utilisons des supports pédagogiques adaptés qui sont plus lisibles. Nous évitons, en fait, de mélanger tous les types d'informations. Nous réfléchissons à la manière de présenter les consignes, d'utiliser le langage. Donc ça, c'est toute une partie, si vous voulez, méthodologique et de présentation. Et puis par ailleurs aussi, nous utilisons des outils de contournement. Car les enfants qui ont des difficultés de lecture ou d'écriture, ben en fait, ils vont continuer à progresser, mais ils vont généralement lentement, grâce à l'entraînement, grâce à l'apport de professionnels paramédicaux, des orthophonistes, des psychomotriciens, des ergothérapeutes. Cependant, en fait, ils ne rattraperont pas forcément le niveau attendu pour leur niveau de classe. Donc, en fait, on va leur proposer des outils de contournement, des outils généralement technologiques. Chaque enfant chez nous a un ordinateur équipé d'un certain nombre de logiciels. Donc, par exemple, un enfant qui a du mal à lire pourra utiliser un logiciel de retour vocal, c'est-à-dire qu'il se fera lire le texte par la machine, il pourra dicter ses réponses, il pourra utiliser le clavier de l'ordinateur pour éviter de tracer, si vous voulez, les lettres. Il aura des correcteurs orthographiques qui lui permettront, en fait, de produire son texte et de le corriger. Voilà, donc toute une boîte à outils logiciels qui permettront à l'enfant de contourner ses troubles.
Et qu'est-ce qui explique ces troubles? Pourquoi se multiplient-ils aujourd'hui en France et à l'étranger?
Alors, on peut pas dire que ça se multiplie. On dit d'abord, en fait, que ce sont des troubles qui ont toujours existé. Cependant, aujourd'hui, ils sont mieux identifiés. Nous avons, en fait, des modèles et des outils plus précis, en fait, pour les mettre au jour. Aujourd'hui, on a une capacité meilleure à les comprendre. Donc cette reconnaissance a créé de son côté, si vous voulez, une sorte d'appel d'air très important dans les classes, hein, ce qui fait que graduellement, on s'est rendu compte des besoins particuliers de ces enfants qui avaient tendance à échouer alors qu'ils avaient tout à fait les moyens de réussir si on leur donnait les outils de compensation de leurs troubles. Et donc la problématique s'est graduellement massifiée. Il y a eu aussi la question de la reconnaissance de handicap, puisque ces troubles sont une perte de chance pour les enfants. Et donc les maisons départementales des personnes handicapées peuvent éventuellement reconnaître ces troubles comme une source de handicap. Tout ça a fait, si vous voulez, qu'en 15 ans, le nombre de personnes en situation de handicap, d'enfants en situation de handicap, a triplé. Et donc, on se retrouve vraiment sur une question sociétale, hein, comment réussir à ce que, si vous voulez, ces enfants soient bien accompagnés. La plupart du temps, ces enfants s'épuisent en classe, perdent en estime d'eux-mêmes, ne se voient pas comme des enfants compétents et capables de réussir, d'où une perte de chance pour tout le monde, pour eux, leur famille et la société en entier. D'où l'idée, en fait, évidemment, de faire des propositions à ces familles, de façon à éviter l'échec scolaire, et donc en particulier un meilleur diagnostic, Hein. Et deuxième élément, un meilleur accompagnement scolaire. Dans les écoles sereines, nous accueillons ces enfants pour une période donnée, qui va être en fait entre 2 et 4 ans. C'est une période de respiration pour l'enfant. On va pouvoir de ce fait leur faire reprendre en estime de soi, leur donner confiance dans leur réussite, solidifier leurs compétences et leur donner des outils de contournement qui leur permettront de repartir dans le système ordinaire au terme de leur scolarité chez nous.
Et vous allez donc ouvrir une antenne de ces écoles à Marseille ?
Absolument. Toute l'idée, si vous voulez, c'est de se rapprocher des familles. Parce qu'évidemment, nous avons ouvert depuis maintenant une quinzaine d'années 5 écoles en France, 2 à Paris, 2 en région parisienne, 1 à Lyon. Mais évidemment, en fait, les besoins sont massifs. On ne pourra pas répondre à tous ces besoins, mais on va contribuer, si vous voulez, à la résolution de ce problème de santé publique. Donc l'idée, c'est cependant aussi de rapprocher ce service des familles. Et donc c'est ce que nous avons décidé de faire, en particulier de créer une nouvelle école à Marseille, afin de servir, si vous voulez, la communauté des familles sur Marseille et sa région. Bien sûr, donc dans le contexte de l'ouverture de cette nouvelle école, nous allons organiser une conférence le jeudi 11 mai à 19h, ça aura lieu dans l'amphithéâtre de l'Alcazar, au centre de Marseille, afin d'échanger avec les familles, les professionnels de santé, les enseignants intéressés par ce sujet, afin de comprendre quelles sont les meilleures innovations aujourd'hui scientifiques et pédagogiques au service de ces enfants. Et cette conférence sera co-animée avec le docteur Habib, qui a plus de 40 ans d'ancienneté sur ces questions, hein, qui a pratiqué la neurologie au service des familles et des enfants 10 sur la région PACA depuis longtemps, et qui permettra de ce fait d'apporter les dernières connaissances sur le sujet.
Hervé Glazel, fondateur du réseau des écoles sereines, il répondait à Loïc Barrière. Un nouveau revirement sur le projet de loi immigration. Le gouvernement veut finalement présenter un texte en juillet prochain au Conseil des ministres. Fin avril, la première ministre avait repoussé le texte à l'automne. Texte qui devait initialement être examiné par le Sénat fin mars, mais Emmanuel Macron avait annoncé son report. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe, présenté par Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, puis à 17h30. Pour votre journal en langue française. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h17.